En 2018, votre livre La possibilité du fascisme insistait sur l'importance de prendre au sérieux cette question et tranchait. Oui, il faut parler du fascisme. Oui, il existe une trajectoire possible de fascisation et de prise de pouvoir par l'extrême droite. Depuis, il y a eu d'autres livres et d'autres contributeurs ou contributrices. Et depuis, la perspective de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite est devenue chose concrète avec la séquence élections européennes et législatives. Hugo Paglietta, est-ce que vous pouvez nous indiquer l'histoire et les motivations de ce nouveau livre réalisé avec l'Institut La Boétie, intitulé « Extrême droite, la résistible ascension », livre que vous avez coordonné avec les contributions de 18 auteurs et autrices?
Le livre, il est issu d'un colloque que l'Institut La Boétie avait organisé à l'automne 2023, donc sur l'extrême droite et sur sa progression. Et donc l'idée, c'était de réfléchir à la fois à la question des bases sociales et électorales de l'extrême droite, avec un certain nombre de spécialistes de ces questions, de réfléchir également aux stratégies que met en œuvre l'extrême droite sur des terrains qui lui sont habituels, comme le racisme, mais aussi sur des terrains pas forcément nouveaux d'ailleurs, mais puisque par exemple il y a l'écologie, mais en vrai, quand on connaît ce genre de questions, on sait que le Front National a commencé à s'intéresser aux questions d'écologie, alors d'une manière très superficielle en réalité, hein, mais en tout cas à parler d'écologie dès les années 90, y compris dans sa revue théorique de l'époque qui s'appelait Identité, et sous l'impulsion de Bruno Maigret à l'époque. Donc il y a d'autres terrains sur lesquels l'extrême droite cherche à d'autres terrains qu'elle cherche à occuper, notamment pour se crédibiliser auprès de segments de l'électorat qui ne sont pas les segments qui traditionnellement votaient fortement pour l'extrême droite. Donc il y a aussi par exemple des contributions dans le livre sur la manière dont l'extrême droite politise les questions de genre et aussi de sexualité, avec notamment tout le développement d'une forme de transphobie qui est venue en grande partie d'ailleurs dans le sillage du mouvement de la Manif pour tous, et ensuite des mouvements contre la prétendue théorie du genre, puis tout ce qui s'était fait autour de la journée de retrait de l'école, bon, c'est dans la séquence 2013, 2015, 2016, et qui s'était pas mal exprimé d'ailleurs dans la campagne de François Fillon en 2017. Bon, et on voit comment une partie de traditionnelle de l'électorat de droite d'ailleurs, qui avait pu voter, qui avait pu d'ailleurs se mobiliser au moment de la Manif pour tous, qui avait pu voter pour François Fillon, il avait quand même obtenu 20%, on a un peu oublié, mais il y a une partie qui est passée à l'extrême droite, notamment via le vote Zemmour en 2022 et en 2024, pour une bonne partie d'entre eux, via le vote pour le Rassemblement National, que ce soit aux européennes ou aux législatives anticipées suite à la dissolution. Donc voilà, donc il y avait cette idée de réfléchir sur les stratégies de l'extrême droite, notamment sur des terrains relativement nouveaux pour elle. Et puis enfin, de réfléchir aux complicités que l'extrême droite peut trouver parmi les élites médiatiques en particulier, et pas simplement dans l'empire médiatique qu'a constitué Bolloré, même si évidemment cet empire médiatique est un acteur important de la progression de l'extrême droite dans les dernières années, mais aussi des alliés ou des complicités dans d'autres institutions. Alors il y a tout un chapitre très intéressant sur la finance, notamment avec c'est sans doute le chapitre le plus international d'ailleurs, où montre Marlène Banquet, sociologue spécialiste de ces questions, montre comment tout un secteur, notamment le secteur le plus spéculatif de la finance, parce qu'elle veut faire sauter disons le peu de régulation sociale ou environnementale qui existe, y compris au niveau européen, s'est mis à financer très fortement des partis, des figures d'extrême droite, ou des think tanks, des cénacles plus ou moins intellectuels, ou qui produisent des pseudo-experts sur différents sujets, ou à financer des médias directement, comme on le voit en France, à travers Bolloré. Il y a aussi le projet Périclès de Sterrin, qui est un milliardaire qui s'est enrichi sur les smart box notamment, et qui a tout un projet pour favoriser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc voilà, il y a la question de la finance et des rapports à l'extrême droite, il y a la question de la police, qui est abordée à travers une interview dans le bouquin avec Didier Fassin, un spécialiste mondialement reconnu de ce type de questions. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple un chapitre sur les écrivains réactionnaires, dont Houellebecq est la figure la plus connue, hein, mais voilà, qui se sont développés, dont l'audience s'est développée au cours des 15 dernières années, Voilà, donc c'est un livre qui donne un panorama assez complet, même s'il n'est pas du tout exhaustif, hein, il y a plein d'autres choses qui pourraient être dites, mais un panorama assez complet de recherche sur l'extrême droite et sa progression en France dans les 10 dernières années.
On va revenir évidemment sur différents aspects du livre. Simplement pour commencer, peut-être il y a un choix qui est assez systématique dans l'ouvrage, c'est de lier le Front National et Rassemblement National sous une forme symbolique, FNRN ou RNFN. C'est certainement pas anodin. Quelle en est en fait la signification?
De ne pas rentrer finalement de pas endosser la stratégie du Rassemblement national, Front national, hein, qui est de faire oublier en quelque sorte ses origines et de faire oublier son identité politique qui le situe évidemment encore aujourd'hui à l'extrême droite. Hein. Il faut quand même se souvenir et prendre en compte qu'il y a pas mal de figures médiatiques ou politiques qui considèrent qu'aujourd'hui le Rassemblement national n'est pas une menace, qui n'est plus d'extrême droite, sans même parler de la catégorie de fascisme. Des gens comme Michel Onfray, des gens comme Marcel Gauchet, des gens comme David Pujadas ont pu faire des déclarations allant dans le sens de respectabiliser et de normaliser l'extrême droite, le Front National, le Rassemblement National. Évidemment, tout ça est un peu synthétisé dans le nom du parti, c'est-à-dire que ils ont changé de nom en 2018. Pour autant, la question est rarement posée de ce qui aurait fondamentalement changé dans la matrice politique, programmatique, idéologique de cette organisation. En fait, la démonstration est presque jamais faite que véritablement il y aurait eu des changements, disons, enfin, autres que cosmétiques dans l'ADN, en quelque sorte, de cette organisation. Et il y a, bon, par exemple, on balaye quand même d'un revers de main le fait que la priorité nationale, qui antérieurement s'appelait la préférence nationale, est au cœur, reste au cœur du projet du parti, à tel point qu'il figure en gros toujours dans les toutes premières mesures que veut mettre en place le Rassemblement national, le Front national. Que toutes les alliances du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui le situent à l'extrême droite, que ce soit avec Fratellitat, enfin plutôt la Lega d'ailleurs, mais le FPÖ autrichien, le fait que Geert Wilders aux Pays-Bas, Vox en Espagne, Chega au Portugal, et le fait que Marine Le Pen ait participé au meeting de Madrid il y a quelques mois, dans lequel il y avait toute la fine fleur de l'extrême droite mondiale, y compris Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine. Et par ailleurs, il y a évidemment le fait qu'une bonne partie des dirigeants actuels du Rassemblement national sont des vieux dirigeants en réalité du Front national. Donc, évidemment, Marine Le Pen, hein, qui est une vieille militante du Front national puisqu'elle est rentrée en 86, donc il y a presque 40 ans. Louis Alliot est un peu dans cette même situation. Laure Lavalette, Gilles Pénel, ceux qui tiennent l'appareil aujourd'hui du Rassemblement national sont des cadres du Front national qui ont été formés par tous les vieux briscards de l'extrême droite des années 80-90, qui étaient encore en grande partie là, au Front national à ce moment-là. Donc évidemment, il en est resté quelque chose, et plus qu'une petite chose. Alors toute leur construction politique et intellectuelle est issue de cette histoire-là et de ce parti qui en 72 a été fondé par des anciens collaborationnistes, des anciens de l'OAS, donc d'une organisation terroriste en défense de l'Algérie française, des anciens militants néofascistes de l'Occident, Ordre Nouveau dans les années 60-70, des anciens poujadistes. Donc tout ça a évidemment laissé des traces, même si c'est plus les mêmes militants, puisque la plupart sont morts, tout simplement. La démographie à un moment fait son œuvre, hein. Et donc évidemment les anciens collaborationnistes sont plus présents dans la région parce qu'il n'y en a plus. De même que les anciens de l'OAS, dont il reste quelques vieux sympathisants qui continuent à essayer de digérer la défaite de 1962 face au mouvement de libération nationale algérien. Mais donc voilà, donc c'est les gens qui sont à la tête du Front national ont évidemment du Rassemblement national aujourd'hui ont encore évidemment beaucoup à voir avec les origines du Front national. Donc évidemment rappeler en permanence les origines du Rassemblement national et le fait qu'il n'est que la continuité stricte du Front national, c'est à mon avis important dans le fait de maintenir l'idée que le Rassemblement national, Front national, est une menace mortelle pour les minorités, pour la démocratie, pour le mouvement ouvrier, pour la gauche, pour tous ceux et toutes celles qui luttent pour une société.
Alors, est-ce qu'on doit analyser l'extrême droite seulement comme une des métamorphoses du néolibéralisme en employant les termes de Stefano Palombani?
Alors, est-ce que c'est une des simples métamorphoses? En fait, ça provient d'une autre histoire, d'une certaine manière, même si, c'est-à-dire que le Rassemblement national et le Front national est ancré dans l'histoire de l'extrême droite. Et que, en gros, pour dire les choses très vite, l'extrême droite n'a pas véritablement de doctrine en matière économique et sociale. Ce sont des partis qui sont fondamentalement opportunistes en termes de discours sur les questions économiques et sociales. Ils peuvent aller jusqu'à des discours quasiment anticapitalistes dans certaines circonstances historiques. Ça a pu être le cas de Mussolini à une certaine époque, voire Hitler, et à certains moments même de Jean-Marie Le Pen, dans des discours plutôt anti-libéraux, disons, critique de ce qu'il appelait l'euro-libéralisme dans les années 90-2000. Donc des discours qui peuvent être anti-libéraux, anti-capitalistes. Et puis, par ailleurs, le Front National, dans les années 80, il avait une ligne extrêmement libérale. Le modèle, c'était Reagan aux États-Unis. Jean-Marie Le Pen ne rêvait que d'une chose, c'était de serrer la main de Ronald Reagan pour apparaître crédible aux yeux du président américain et aux yeux de l'opinion publique française. En tout cas, apparaître plus respectable. Donc, si vous voulez, ils ont à voir avec le néolibéralisme dans la mesure où ils n'ont comment dire, ils n'ont rien à redire au capitalisme en tant que tel. C'est surtout ça, c'est que c'est un parti qui est profond, enfin c'est une famille politique extrême droite qui n'a rien fondamentalement d'anticapitaliste, contrairement à ce que parfois on lui attribue, qui n'a rien d'un parti hostile à l'exploitation capitaliste ou aux inégalités en tant que telles, entre patrons et ouvriers, entre bourgeoisie et prolétariat. Et donc, c'est un parti qui va, comment dire, en permanence, quand il est au pouvoir, enfin, c'est une famille politique, quand elle est au pouvoir, elle va chercher à satisfaire les intérêts des puissants, à trouver des compromis avec des secteurs entiers ou des pans entiers du patronat. Ça a été le cas dans toutes les dictatures d'extrême droite d'entre-deux-guerres, ça a été le cas de toutes les dictatures d'extrême droite après-guerre, que ce soit les dictatures en Amérique latine. Il faut se souvenir que le Front national était soutien de Pinochet, hein, par exemple au Chili, ou que ce soit les dictatures en Europe du Sud, qu'il y a eu donc jusqu'aux années 70 en Espagne, au Portugal ou en Grèce. Donc c'est des partis qui, même quand ils adoptent une forme de démagogie sociale pour essayer de séduire les classes populaires, en se prétendant le parti des petits, le parti du peuple, etc. En fait, en réalité, quand on regarde les programmes qu'ils défendent, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va dans le sens de l'intérêt des classes populaires. Déjà, commençons par là. Il y a eu des moments où le Front National a adopté une rhétorique plus sociale que maintenant, d'ailleurs, hein, il y a une dizaine d'années, vers 2014-2015, ils avaient à leur programme l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, la renationalisation de certains secteurs, notamment de l'énergie, etc. Tout ça a absolument disparu du programme aujourd'hui, parce que précisément, ils se rapprochent du pouvoir et que la nécessité pour eux actuellement, c'est de séduire le patronat, et notamment pour apparaître crédible comme force de gouvernement. Et aussi pour séduire des pans plus importants de l'électorat de droite traditionnel qui, lui, est hostile globalement à des propositions plus sociales, etc. Donc voilà, et par ailleurs, si on regarde ce que font les alliés de Marine Le Pen quand ils sont au pouvoir à l'échelle internationale en ce moment, que ce soit Viktor Orban en Hongrie, Donald Trump aux États-Unis entre 2016 et 2020, Bolsonaro un peu après, ou Meloni actuellement en Italie, ou d'autres alliés en Scandinavie qui sont au pouvoir avec la droite, d'autres alliés de Marine Le Pen, bon, on s'aperçoit qu'il y a aucune remise en cause quelconque du néolibéralisme. En gros, ils s'inscrivent totalement dans le moule néolibéral. Voilà. Et donc, il n'y a aucune raison que le Front National fasse exception à cette règle. Et d'ailleurs, on le voit bien, on l'a bien vu là au moment où présenter le Front National comme étant aux portes du pouvoir au printemps, là, en juin. On a bien vu que même le seul truc sur lequel ils ont essayé de rester ferme, qui était l'opposition à la réforme des retraites Macron, la dernière, ils ont fini par bégayer et finalement Bardella disait quelques jours avant le deuxième tour des législatives anticipées que finalement il ne ferait pas l'abrogation et que, en tout cas pas tout de suite, on verrait bien selon l'état des finances, etc. Bon, on a bien compris finalement que voilà, il fallait pas attendre le Front National pour fallait pas attendre du Front National qu'il remette en cause une quelconque contre-réforme mise en place par les gouvernements qui sont succédés au pouvoir depuis des décennies en France et qui ont abîmé très fortement les conditions de vie de la majorité de la population et notamment des travailleurs, des classes populaires.
Dans le livre, le terme de bloc est utilisé. En quoi sa portée est-elle différente de son utilisation, qui est d'ailleurs fréquente, qui est en simple description de la situation électorale ? D'ailleurs, il faudrait aussi préciser, parce que parfois on entend trois blocs, parfois quatre blocs, avec les abstentionnistes.
Oui, alors ben là, il y a des débats là-dessus, hein, d'une certaine manière, entre, par exemple, effectivement, du côté de la France insoumise, on parle de quatre blocs, en incluant le bloc des abstentionnistes. Je ne suis pas absolument convaincu. S'il s'agit simplement de souligner l'importance des abstentionnistes, l'importance numérique, le fait qu'ils sont nombreux et nombreuses à s'abstenir de manière régulière, et leur importance politique pour les échéances électorales futures, là, il n'y a pas de débat. Et évidemment, la question des abstentionnistes, elle est importante. Et il y a des travaux, notamment ceux de Tristan Haute, qui montrent bien comment, sans doute, la gauche a des réserves non négligeables parmi les abstentionnistes, notamment dans les quartiers et les villes les plus populaires et les plus soumises à la pauvreté dans les grandes agglomérations urbaines. À la fois parce qu'il y a une forte proportion d'abstention, mais aussi une forte proportion de non-inscrits. Et que c'est, par ailleurs, c'est aussi des populations plus jeunes, et qu'on sait que le plus grand facteur de différenciation de l'abstention, c'est l'âge, puisque les 18-24 ans, notamment, s'abstiennent beaucoup plus souvent que les plus âgés. Alors sur le reste de la question, alors, le concept de bloc, qui est notamment développé par Bruno Amable et Stefano Palombari dans leurs travaux, mais il y a une conceptualisation qui emprunte à Gramsci et qui vise à associer, à penser les blocs sous l'angle à la fois social et politique. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un peu une ambiguïté sur ce qu'ils appellent notamment le bloc bourgeois pour désigner le bloc macroniste, et où je ne suis pas totalement personnellement convaincu, mais ça c'est un débat légitime entre eux et moi-même, parce que de mon point de vue, ce que propose le Front National, le bloc du Front National, c'est sociologiquement pas un bloc bourgeois, mais politiquement c'est un bloc bourgeois, au sens où c'est un bloc qui politiquement ne souhaite pas la remise en cause des politiques bourgeoises menées depuis d'un système de domination bourgeoise. Mais donc voilà, ça vise à essayer de penser comment certaines propositions politiques peuvent trouver l'oreille de différents segments sociaux, ça peut être différentes couches sociales, différentes classes sociales ou fractions de classe. Et donc, bon, par exemple, c'est intéressant d'avoir en tête que selon ce qui est dégagé dans leur dernier bouquin, le vote Macron a été le plus bourgeois de l'histoire. Ça dit quelque chose du lien organique qu'il y a entre le programme néolibéral tel qu'il a été porté par Macron et les franges les plus favorisées de la population, pas simplement les grands patrons, mais aussi les cadres du privé, les professions libérales, une partie du petit patronat, aussi une fraction d'ailleurs de l'encadrement, enfin des cadres du public. Voilà, et du côté de la gauche, puisqu'en gros les trois blocs, c'est ça, c'est le bloc néolibéral ou le bloc bourgeois de chez Amable et Palombarini, le bloc de gauche ou bloc social écologiste, parfois on dit, qui lui a un électorat intéressant, c'est-à-dire que on y voit représenter toutes les franges du salariat avec une très forte sous-représentation des professions indépendantes, des professions des indépendants, des petits indépendants, des professions libérales, des patrons, évidemment des grands patrons, mais avec après une représentation à peu près équivalente de toutes les différentes couches du salariat, donc aussi bien les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires ou les cadres. Donc c'est un électorat en quelque sorte de classe, si on prend l'idée de classe des salariés, mais qui représente un peu la classe des salariés, on va dire les 80-85% de gens qui sont salariés, mais dans sa diversité, quoi. On va trouver à la fois des salariés subalternes, employés ouvriers, aussi bien que des salariés cadres ou intermédiaires. Là où, en quelque sorte, le Front National, il a son centre de gravité, sans doute plutôt dans les franges stabilisées des classes populaires, notamment des ouvriers qualifiés, et notamment des couples biactifs, ouvriers, employés, qui peuvent être amenés à posséder leur logement, qui sont un peu plus âgés d'ailleurs, qui ont 40, 50 ans. Donc on va trouver cette fraction-là qui est assez forte au sein de l'électorat de l'extrême droite, mais aussi justement pas mal de petits indépendants, artisans, commerçants, petits patrons. Une frange croissante de cadres, hein, notamment depuis 2022, il y a une partie de l'électorat de droite plutôt favorisée, notamment cadre ou profession libérale, qui est passée du vote de traditionnel à droite vers un vote à l'extrême droite, parfois en passant par le vote Zemmour en 2022, qui était un vote extrêmement bourgeois ou socialement privilégié, hein, quand on regarde là encore les données que donne qu'avance Piketty et Cagé dans leur dernier livre. Donc voilà, donc ça permet en fait l'idée de bloc, ça nous contraint, si on la prend au sérieux, à associer en quelque sorte des propositions politiques, notamment sur les questions économiques et sociales, avec certaines franges de l'électorat. Et là, on voit d'ailleurs que la contradiction qui est au cœur de l'électorat du FN, c'est que c'est un électorat qui met en qui est profondément hétérogène socialement, contrairement à une idée reçue. C'est-à-dire que c'est pas juste un électorat d'ouvriers populaires, etc. C'est un électorat dans lequel on va retrouver effectivement pas mal d'ouvriers, mais avec des petits patrons, des cadres, etc., qui du coup n'ont pas du tout les mêmes intérêts de classe. Et en quelque sorte, la difficulté du Front National, c'est d'arriver à faire tenir tout ça ensemble. Ils le font pas tellement d'ailleurs sur le terrain économique et social, parce qu'ils savent que c'est compliqué d'avancer des choses qui satisferaient tout le monde en matière économique et sociale, mais avec ce ciment qui est pour eux la xénophobie et le racisme, qui va en quelque sorte permettre de faire tenir ensemble un électorat qui fondamentalement est hétérogène socialement, hétérogène en termes d'intérêt de classe.
Qu'est-ce que vous pensez justement là, sur la question du partage France urbaine, France périphérique comme une des explications du vote RN?
Je ne pense pas que ce soit une explication. Effectivement, il y a des différenciations géographiques où effectivement plus on va vers les grandes agglomérations et notamment l'agglomération parisienne, et moins le vote pour l'extrême droite est fort, mais qui s'explique en partie par la sociologie, et qui s'explique presque intégralement en réalité par la sociologie spécifique des grandes agglomérations, et notamment de l'agglomération parisienne, dans laquelle on va trouver des gens plus diplômés, et effectivement le diplôme, le fait d'être plus diplômé rend moins probable le vote d'extrême droite. C'est des grandes agglomérations où on va trouver davantage de personnes issues de l'immigration, notamment de l'immigration postcoloniale ou non européenne ou extra-européenne. Et évidemment, les personnes issues de l'immigration extra-européenne votent nettement moins, voire très très peu pour l'extrême droite, pour des raisons assez évidentes. Et donc voilà, donc il y a objectivement des différences de vote entre les petites villes ou les zones rurales et les grandes agglomérations. Pour autant, en quelque sorte, le problème des concepts de France périphérique versus France urbaine, c'est que ça homogénéise des territoires qui sont profondément, qui sont socialement et politiquement clivés. Il n'y a aucune homogénéité de la France périphérique telle qu'elle est, que ce soit sur le plan social ou sur le plan politique, hein, telle qu'elle est décrite par Christophe Guilly, par exemple. Il y a des territoires ruraux ou semi-ruraux ou des petites villes dans lesquelles la gauche obtient des scores tout à fait bons parce qu'ils sont inscrits dans des traditions politiques particulières, de même que il y a des territoires ruraux dans lesquels la classe ouvrière a toujours voté plutôt à droite et où les traditions de gauche ou du mouvement syndical ont toujours été assez faibles. Et par ailleurs, dans ce qu'on appelle la France périphérique, mettre ensemble des petites villes très cossues de je ne sais quel coin avec des campagnes en déclin telles que les décrit par exemple le sociologue Benoît Coquart, ça n'a aucun sens. De même que ça n'a aucun sens de mettre dans la France urbaine des gens qui habitent dans le centre de Paris et qui vivent très bien avec des hauts revenus et du patrimoine avec les personnes qui vivent en banlieue au nom du fait qu'en banlieue de grande ville, dans la ceinture rouge par exemple parisienne, ou qui n'ont absolument pas les mêmes conditions d'existence. Bon. Donc, et qui par ailleurs ne votent pas pareil. C'est-à-dire qu'en gros, dans le centre de Paris, on a pu voter beaucoup, notamment dans l'Ouest parisien, beaucoup Macron, voire pour la droite. Voilà. Et dans les villes de banlieue populaire, on a voté à un très haut niveau pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Donc, ni sur le plan social, ni sur le plan politique, ça n'a de sens d'opposer terme à terme, de manière très binaire, la France périphérique à la France urbaine. En réalité, ça esquive complètement la question sociale, non seulement la question des classes sociales, mais aussi même les questions qui sont liées en fait à l'immigration et au racisme, qui elles effectivement sont plus pertinentes en réalité pour penser le vote d'extrême droite. La question qu'on pourrait se poser, parce que il y a par exemple une thèse qui est avancée par Piketty-Caget, qui est de dire le vote Front National, il exprime essentiellement un sentiment d'abandon, puis c'est pas les seuls à dire ça comme ça, hein. Ça exprime un sentiment d'abandon de ces populations, des zones rurales ou des petites villes, du fait de la désaffection des services en termes de services publics, etc. Ok, mais dans ces cas-là, leur intérêt prêterait plutôt à voter pour le Front Populaire, le nouveau Front Populaire ou la gauche, puisque si on regarde les programmes, très clairement, ce que proposait la gauche est plus ambitieux en matière sociale, de services publics, etc., que le Front National, et de très loin. Donc ça ne constitue pas une explication suffisante. La question qui reste, qu'il faut essayer de comprendre, d'expliquer, c'est comment ce sentiment d'abandon qui peut être réel, va s'accrocher en quelque sorte, se brancher avec autre chose qui est notamment la question de la xénophobie anti-immigrée, du racisme, notamment de l'islamophobie. Et quelque chose qui est par exemple très bien montré dans le bouquin de Félicien Faury, qui est aussi un bouquin d'enquête de terrain sur l'électorat du Front National, Rassemblement National, et qui a aussi contribué au livre collectif là, que j'ai coordonné, et qui montre très bien comment la question de classe, donc la question des conditions sociales d'existence, va s'accrocher avec une question de race, en fait, en quelque sorte, une question raciale, en tout cas, une question de racisme, à l'encontre des minorités et des immigrés, quoi, qui sont vus comme, effectivement, captant toutes les... étant bénis, en quelque sorte, privilégiés par l'État, captant indûment, illégitimement des aides sociales, détériorant, en quelque sorte, la vie sociale au niveau local, etc. Je suis pas du tout convaincu par les concepts de France périphérique qui permettrait d'expliquer en tant que tel, c'est à partir de données purement géographiques ou de différenciation spatiale, le vote pour le Front National.
Alors, dans la postface du livre, écrite par Clémence Guettet, sont proposées des thèses stratégiques pour vaincre l'extrême droite. Ascension de l'extrême droite, certes, mais comme le dit le titre du livre, ascension résistible. Alors, comment résister? Comment vaincre? Et est-ce qu'il faut à nouveau construire de nouveaux collectifs à la base?
Je pense qu'il ne faut pas opposer, en quelque sorte, la base au sommet, si on veut, ou plutôt la construction locale. Qui peut être aussi la construction syndicale par ailleurs dans les boîtes, dans les entreprises. Je pense que la lutte contre la désertification syndicale, c'est un enjeu en soi pour les travailleurs, pour les salariés, mais c'est aussi un enjeu pour la lutte contre l'extrême droite, pour le combat antifasciste. Plus on arrivera à reconstruire de syndicats et de la combativité syndicale dans des territoires ou dans des secteurs où actuellement ils sont faibles, et plus on aura en quelque sorte une infrastructure organisée pour lutter contre l'extrême droite et pour des idées d'égalité, de justice sociale, etc. Mais en tout cas, à mon avis, il n'y a pas à opposer le local au national. On a à la fois besoin de collectifs, de plus de syndicats, je le disais, mais aussi de plus de collectifs antifascistes présents localement. Je suis allé récemment animer une réunion dans le bassin minier, du côté de Liévin-Lens. De Liévin et Lens, à la limite entre les deux, donc par des militants qui essaient d'animer un collectif antifasciste dans le coin. Donc ça, c'est très encourageant d'une certaine manière. Mais bon, j'ai été amené à animer pas mal de réunions un peu partout en France, et il y a eu ces 5, 6 dernières années la renaissance d'un tissu militant, je dirais, antifasciste, qui n'est pas du tout inintéressant de ce point de vue-là, là où il avait un peu, pas disparu, mais pas loin, dans la première moitié des années 2010, disons. Donc voilà, il n'y a pas à opposer, à mon avis, ça, avec les questions que pose, par exemple, Clémence Guettet, notamment en termes de construction d'une alternative politique, puisqu'on a besoin des deux. On a besoin, effectivement, d'un travail local, d'enracinement des idées de gauche, d'égalité, de justice sociale, au sens vraiment basique du mot gauche, hein, en quelque sorte, mais voilà, de réenraciner ces idées-là, qu'elles soient incarnées par des figures, mais aussi par des militants, par des organisations localement ou dans les entreprises, et puis de l'articuler avec la question d'une construction de la construction d'une alternative politique, y compris sur la scène électorale, qui puisse concurrencer le Front National, parce qu'une des forces du Front National, pas tellement parmi dans le cœur de son électorat qui lui en quelque sorte lui est acquis maintenant depuis pas mal de temps et qui sera difficile à déraciner en quelque sorte, c'est le Front National arrive à attirer les votes de gens qui se disent aussi d'abord on l'a jamais essayé, ce qui est pas tout à fait vrai au plan local, puis on les a essayés en 40 d'une certaine manière, enfin bon, là, ça nous emmène loin, mais qui se dit surtout c'est que le Front National ou le Rassemblement National c'est l'opposant principal à Macron. Et ça peut être l'instrument pour, disons, mettre dehors les gens qui gouvernent depuis des décennies, quoi. En mettant un parti ou autre qui n'a pas gouverné au plan national. Et donc, tant qu'en quelque sorte, on n'a pas un instrument politique qui est capable de faire pendant et de concurrencer le Front National sur le terrain de l'alternative politique, on aura du mal, à mon avis, à faire régresser le Front National électoralement. Donc les deux ne s'opposent pas, et même en réalité, c'est parce qu'on arrivera à construire davantage localement, à enraciner nos idées, à reconstruire des collectifs là où il n'y en a pas, ou là où ils sont faibles, que la gauche pourra être une option sérieuse sur le plan électoral. D'ailleurs, la raison pour laquelle, sans doute, la gauche de gauche, celle qui n'a pas renoncé à transformer la société, n'a pas disparu électoralement en France, contrairement à bien d'autres pays d'Europe de l'Ouest, notamment l'Italie, c'est très certainement parce que le niveau des luttes sociales, le niveau de conflictualité sociale, ou tout simplement de lutte de classe, est resté assez élevé en France depuis l'hiver 95, donc ça fait quand même déjà 30 ans, et beaucoup plus élevé en tout cas qu'en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Et donc c'est pas totalement étranger, à mon avis, au succès qu'ont pu rencontrer les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, en 2017, et 2022, et au fait que le nouveau Front Populaire a réussi à, même si c'était une majorité relative, hein, mais à l'emporter en juillet dernier, là où on ne s'y attendait quand même pas tellement au vu des résultats des élections européennes et du premier tour des législatives anticipées. Voilà,